Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Une majorité des résidents des EHPAD est désormais vaccinée, mais leur liberté, elle, est toujours confinée, mise entre parenthèses. Et de plus en plus de voix appellent à alléger le protocole sanitaire, car à 80 ou à 90 ans, eh bien, on n'a plus le temps de prendre son temps. Cet allègement, c'est ce que demande notamment le président du groupe Philogéris, qui gère 17 EHPAD en France. Yann Reboulot sera mon invité tout à l'heure à 18h20. Emmanuel Macron, à la ferme, faute de salon de l'agriculture. Le président rappelle à l'ordre la grande distribution et les industriels pour une meilleure rémunération des producteurs. On y reviendra avec les grandes voix à partir de 18h30. Et puis entre 19h et 20h, c'est votre débat du Club des idées d'Europe Soir. Les magistrats sont au bord du burn-out, crise des vocations, pas assez de moyens, pas assez de reconnaissance, trop de travail, l'obligation de changer d'affectation et de région régulièrement. Quelles conséquences pour le justiciable ? La justice va mal, mais à quel point ? On en débattra à partir de 19h20. Mais avant cela, c'est l'info avec le journal présenté ce soir par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Il est 18h, merci à vous d'écouter Europe 1.
6 personnes en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'une collégienne de 14 ans à Saint-Chéron dans l'Essonne. L'auteur des faits est également entendu par les policiers.
L'adolescente aurait tenté de s'interposer pour mettre fin à une bagarre entre bandes rivales. Les derniers éléments de l'enquête dès le début de ce journal.
Dunkerque et la crainte du confinement. Le virus circule de plus en plus, mais sur place, les autorités locales veulent tout faire pour éviter un reconfinement.
Nice hier, Dunkerque aujourd'hui, les indicateurs repartent à la hausse presque partout en France. Le nombre de malades en réanimation a retrouvé son niveau de début décembre.
Il n'y a pas de salon de l'agriculture, qu'importe, Emmanuel Macron est quand même allé à la ferme, rencontre avec les agriculteurs sur fond de tension avec la grande distribution.
C'était une demande des associations étudiantes pour lutter contre la précarité menstruelle. Les protections périodiques deviendront gratuites dès la rentrée de septembre pour les étudiantes.
Netflix s'empare du dossier Pelé, documentaire sur le légendaire numéro 10 brésilien. Vous pensiez tout savoir. Erreur, nous dira Cyril de la Morinerie. Il y a encore des choses à apprendre. Et puis la Bourse de Paris termine en très légère hausse, plus 0,22% à 5 779 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Du très beau temps pour demain.
Oui, après la dissipation des quelques brouillards matinaux, le soleil va bien briller dans un ciel complètement dégagé demain avec des températures encore en hausse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'enquête ne fait que commencer à Saint-Chéron dans l'Essonne un peu plus de 24 heures après la mort d'une collégienne de 14 ans.
L'adolescente aurait été tuée d'un coup de couteau en pleine rue, à proximité de son collège de Saint-Chéron. Et Justin Morin, on commence à y voir un peu plus clair et à comprendre ce qui s'est passé.
Oui, effectivement, la procureure de la République d'Evry doit tenir un point presse d'un instant à l'autre. On attend vraiment les derniers éléments, mais ce qu'on peut dire ce soir, c'est que les faits se sont déroulés aux alentours de 15h hier après-midi. Un groupe venu de la commune voisine de Dourdan est alors à la recherche d'un autre jeune d'une bande de Saint-Chéron. Mais il croise un autre garçon, un ami de celui qu'il recherche. C'est à ce moment-là que ça dégénère. Alors pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. La procureure nous en dira peut-être plus. En revanche, on sait qu'une dizaine de jeunes sont impliqués dans cette bagarre. À ce moment-là, la victime, une adolescente de 14 ans, tente de s'interposer et reçoit un coup de couteau dans le ventre. Elle a été transportée en urgence absolue à l'hôpital, mais elle est décédée dans la nuit. L'auteur du coup de couteau et ses complices se sont enfuis, mais ils ont été interpellés plus tard dans la journée. En tout, 6 mineurs, dont l'auteur présumé des faits, âgé de 16 ans, qui a été désigné par 4 de ses complices. Ce soir, ils sont toujours en garde à vue. La préfecture de l'Essonne alerte sur l'augmentation de ces rixes. Le préfet, en déplacement ce soir à Dourdan, appelle à la mise en place d'un plan de lutte dans le département, le plus touché d'Île-de-France par ces affrontements entre bandes rivales.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. La crise sanitaire à Dunkerque, on redoute plus que jamais de connaître le même sort que les habitants des Alpes-Maritimes.
Dunkerque, 200 000 habitants, l'épidémie qui flambe, le Premier ministre Jean Castex et le maire de la ville qui se sont parlé aujourd'hui. Le chef du gouvernement veut des mesures de freinage, ce qui laisse peu de doute sur la suite des événements. Mais le maire s'accroche à un dernier espoir, Lionel Gougelot.
Oui, et ce dernier espoir pour éviter un scénario à la niçoise, c'est un changement radical dans les comportements que prône Patrice Vergriete. Zéro rassemblement, zéro regroupement en famille ou au travail, dépistage, masque généralisé pour échapper à une mise sous cloche.
Si l'État devait venir nous annoncer des confinements en tant qu'élu local, nous n'allons pas nous y opposer. On peut comprendre un certain nombre de mesures. Ce n'est pas notre proposition. Nous voulons donner une dernière chance à la population dunkerquoise.
Vaccination et gestes barrières sont les seuls moyens d'éviter un confinement qui même limitée au week-end, serait mal vécue par la population, selon le docteur Guadin, médecin généraliste à Dunkerque.
Le virus, il circule dans la semaine, il ne circule pas que le samedi dimanche, monsieur. Donc il faut demander aux gens de respecter les gestes barrières, de se priver de convivialité pendant 15 jours, 3 semaines, pour qu'on puisse passer la vague au mieux et qu'on ne soit pas, encore une fois, confiné complètement.
Reste parmi les habitants un certain fatalisme, parfois teinté de colère. Laetitia, commerçante, exaspérée par le comportement des gens sur la plage de Malo.
Vu le monde qu'il y avait ce week-end sur la plage de Malo, c'est affolant, affolant. Les gens, ils n'ont pas compris qu'il y avait beaucoup de Dunkerque et en fait, c'est beaucoup des gens de l'île qui sont venus et ils étaient tous collés, sans masque. Moi, je comprends pas. Donc, ils ont raison de confiner le week-end, en fait. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, quoi.
Verdict annoncé demain par Olivier Véran, mais certains élus regrettent ici qu'on ait déjà perdu beaucoup de temps.
Un Lionel Gougelot à Dunkerque où l'on tente le tout pour le tout afin d'éviter un emballement de l'épidémie, mais au plan national, il n'y a pas de quoi être optimiste.
Effectivement, les indicateurs ne sont pas bons, hein. Surtout celui des malades en réanimation, un peu plus de 3400 actuellement, c'est du jamais vu depuis le début du mois de décembre. Il y a d'autres chiffres qui ont de quoi inquiéter Anne Le Gall.
Oui, il y a des tensions en réanimation de plus en plus marquées en région PACA, dans les Hauts-de-France, mais aussi dans le Rhône, en Moselle, où les variants sud-africains et brésiliens sont très présents, en Île-de-France, où les entrées en réanimation sont sur un plateau montant. Le directeur des hôpitaux de Paris a d'ailleurs parlé de semaines de vérité. On voit aussi que le nombre de contaminations quotidiennes en France est en hausse depuis presque une semaine. Ça ne s'était pas vu depuis le début du mois. Et que, d'un autre côté, ça c'est plutôt rassurant, le R effectif, le nombre de personnes contaminées par un cas positif reste en dessous de 1 au niveau national. Alors, que conclure ? Faut-il être pessimiste face à cette tendance à la hausse ? En réalité, on manque encore de recul pour conclure, mais il est vrai que cette hausse correspond à des projections qui ont été faites par les épidémiologistes et qu'au niveau du calendrier, elles concordent avec la propagation du variant britannique. Ce variant britannique est déjà majoritaire dans certains départements. Il devrait vraisemblablement le devenir la semaine prochaine au niveau national. On se situe donc effectivement à un possible moment de bascule.
Les précisions d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Une lueur d'espoir tout de même, elle nous vient d'Israël. Le ministre de la Santé annonce aujourd'hui que le vaccin de Pfizer protège du Covid dans 95% des cas et empêche d'en développer les formes graves.
Et en Écosse, on passe à la phase 2. Le gouvernement envisage un déconfinement progressif et prudent. Le 5 avril, autorisation de sortir de chez soi. Le 26 avril, réouverture des commerces non essentiels comme les bars, les restaurants, les hôtels et les salons de coiffure.
Ce virus du Covid qui a contraint les vaches, les veaux, les moutons à rester à la ferme cette année. Vous le savez qu'il n'y a pas de salon de l'agriculture. C'est une première depuis près de 60 ans. C'est donc Emmanuel Macron qui s'est déplacé aujourd'hui. Il est allé dans une ferme en Côte d'Or. Une visite est l'occasion de parler des difficultés du monde agricole et de ces fameuses négociations qui sont en cours avec la grande distribution. Jean-Rémy Baudot.
Oui, l'Élysée avait promis soutien et fermeté. Ce sont bien les messages qu'Emmanuel Macron est venu passer dans cette ferme de Côte d'Or. Soutien aux agriculteurs, merci de nourrir la France, a martelé le chef de l'État. Et fermeté face aux négociations commerciales trop agressives.
Au moment où on a cette bonne négo sur le lait, aujourd'hui même, des grands distributeurs demandent moins 10% à des producteurs de charcuterie. Du jour au lendemain, un rétroactif au 1er octobre. Comment vous voulez que ça tienne une seule seconde ? On se fiche du monde quand on continue de faire ça. On fait, en quelque sorte, des petits efforts sur des couloirs de nage et on continue à détruire de la valeur ailleurs.
Emmanuel Macron qui cible la grande distribution, car toute la filière agroalimentaire le sait, ce sont les agriculteurs les victimes de ces pratiques. Un constat partagé par Serge Papin, l'ancien patron de Système U. Il remettra prochainement un rapport avec plusieurs propositions.
Si on ne veut pas que l'agriculture disparaissent. Il faut qu'on arrive vers une coopération plutôt qu'une confrontation. Et pour arriver à ça, c'est la pluriannualité des contrats qui le fera. Et donc cette recommandation-là va être aussi à l'ordre du jour dans quelques temps.
Des propositions et une volonté politique affichée par Emmanuel Macron qui prouve que la loi Egalim votée en 2018 pour protéger les petits producteurs a déjà atteint ses limites.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 et ses négociations, on y reviendra dans 10 minutes avec les grandes voix du mardi sur Europe 1. Fausse coque de smartphone, faux timbre, sans oublier des fausses baskets de marque. La contrefaçon, visiblement, ne connaît pas la crise.
Plus de 5,5 millions d'articles contrefaits saisis en 2020. Les vêtements, les chaussures et les accessoires, sont en tête du hit parade dans plus de la moitié des cas. Ces marchandises sont arrivées par avion ou par train, quelquefois par la route, ainsi à Nogent-sur-Marne. En région parisienne, les douaniers ont intercepté un poids lourd en provenance de Belgique. À l'intérieur, 70 000 paires de chaussures, imitation plus ou moins parfaite de baskets Dior, Adidas, Reebok et Palladium.
Europe 1, Isabelle Millet.
18h08, dans un instant, la suite de votre journal. Les protections hygiéniques gratuites pour les étudiantes à la rentrée. Et c'est tout, sauf un détail.
Et puis Pelé, comme vous ne l'avez jamais vu, ou presque. Netflix s'intéresse au célèbre numéro 10 brésilien.
18h10 sur Europe 1, c'est la suite du journal de Christophe Lamar. Et les organisations étudiantes parlent d'une belle victoire contre la précarité menstruelle. Les protections hygiéniques seront gratuites à partir du mois de septembre.
Annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur. Concrètement, les étudiantes pourront obtenir des tampons ou des serviettes hygiéniques dans des distributeurs qui seront installés dans les universités. 1500 seront en place d'ici septembre.
Il faut savoir que selon une enquête de la FAGE, 13% des étudiantes doivent aujourd'hui choisir entre acheter ces protections périodiques ou bien acheter à manger. Anna Prado Desoliveira est le vice-président de la FAGE en charge de la lutte contre les discriminations.
C'est une victoire. Les discussions que nous avons eues avec Madame Vidal, c'était sur la nécessité de lever le tabou sur les protections menstruelles et de les mettre dans des lieux de passage et vraiment pas enfermés dans juste les toilettes pour femmes, par exemple, puisque certains hommes ont leurs règles, comme les personnes transgenres, mais aussi les personnes non-binaires, et donc c'est pour nous c'était nécessaire d'avoir ça dans des différents lieux, et donc les services de santé universitaire semblent aussi des bons lieux de passage pour les étudiants et étudiantes. Et puis on fait attention aussi à ce que les protections soient adaptées au plus de morphologie possible, puisque tout le monde n'a pas le même corps, n'a pas les mêmes besoins, certaines personnes ont un flux plus important que d'autres, donc il faut des protections variées.
Anna Prado de Oliveira au micro de Yasmina Katou. Il y a du football ce soir, Isabelle.
Avec la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Atlético Madrid, Chelsea et Lazio Rome, mais aussi Lazio Rome, Bayern Munich. On va y arriver. Atlético Madrid contre Chelsea et Lazio Rome contre Munich. Le coup d'envoi de ces deux rencontres, c'est à 21h. Et puis pour les nostalgiques, il y a une légende à la télé, une légende du foot. Netflix s'intéresse à Pelé.
L'artiste brésilien a droit à son documentaire. Si aujourd'hui votre enfant veut absolument un maillot floqué du numéro 10 dans le dos, c'est à cause de lui. Le roi Pelé joue avec un numéro 10 dans le dos, mais oui. Mais ce que l'on apprend surtout dans ce documentaire que vous avez vu, Cyril de la Morinerie, c'est qu'il ne voulait pas jouer la Coupe du Monde 70. C'est pourtant elle qui l'a définitivement fait entrer au panthéon des artistes du ballon rond.
Oui, on découvre un Pelé fragile, sans certitude, qui prend part à reculons à la Coupe du Monde 1970, loin du gamin insouciant et virevoltant qu'il était en 1958. L'icône planétaire ne voulait pas aller au Mexique car il s'était blessé lors des deux Coupes du Monde précédentes, mais la dictature brésilienne ne lui a pas laissé le choix. Finalement, ce mondial deviendra en effet un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre collectif. Une équipe brésilienne au sommet de son art, victorieuse en finale de l'Italie. Le roi accompagne une génération en or comme Jairzinho en attaque, mais aussi Tostao, Carlos Alberto. À l'évocation de ce succès, bien Pelé, âgé aujourd'hui de 80 ans, désormais sur une chaise roulante, s'effondre en larmes car ce succès fut une bouffée d'oxygène pour son peuple alors oppressé. L'homme qui se livre peu évoque ainsi ses rapports avec la dictature brésilienne qui a sévi entre 1964 et 1985. Beaucoup lui ont reproché de ne pas s'opposer à la junte militaire, mais lui assure dans ce documentaire qu'il ne pouvait rien faire.
Je ne crois pas que j'aurais pu agir différemment. Je ne suis pas un surhomme ni un faiseur de miracles. J'étais une personne normale à qui Dieu avait permis de jouer au foot. Mais je suis absolument certain que j'ai fait bien plus pour le Brésil avec mon football que bien des hommes politiques payés pour le faire.
Dans ce documentaire rythmé aux images d'archives nombreuses, Pelé tombe le masque. Il évoque ainsi ses infidélités, ses enfants cachés. Une belle réussite pour Netflix qui, après donc, le succès planétaire de commentaires The Last Dance sur Michael Jordan, espère séduire les nostalgiques du plus grand joueur de football de tous les temps.
Mais Cyril de la Morinerie, documentaire à voir bien sûr à partir de ce soir sur Netflix. Cyril de la Morinerie du service des sports.
Christophe Lamar, que l'on retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. Anissa Adadi, temps très lumineux pour demain. Bonne nouvelle.
Oui. Dès le début de la journée, en effet, Isabelle, demain, le soleil se montre sur de nombreuses régions, du nord jusqu'au Pays de la Loire, dans le sud-ouest, en Corse et puis sur le Grand Est. Attention, dans toutes ces régions, nous aurons des brouillards qui seront nombreux mais qui ne seront pas très épais. Hein. Vraiment, des brouillards qui peuvent un peu gêner la visibilité mais qui vont très vite se dissiper. Les nuages restent bien présents sur le Roussillon avec le vent marin qui souffle une nouvelle fois très fort demain toute la journée. Mais la pluie s'arrête, il ne pleut plus dans les Cévennes. Dans l'après-midi, à part sur le Languedoc-Roussillon et sur la Pointe-Bretonne, partout ailleurs, nous avons du soleil dans un ciel complètement dégagé. Il va faire très beau. C'est une journée printanière digne d'un début avril que nous aurons demain.
Ah oui, quand même, pas mal.
Même niveau température, puisque nous aurons 2 à 12 degrés le matin. 2 pour Strasbourg, 4 à Clermont-Ferrand, 7 à Marseille, 9 à Nantes et Montpellier, 10 à Paris, Lille et Bordeaux et 12 à Boulogne-sur-Mer. Et puis au meilleur de la journée, comptez 13 degrés à Lorient, 19 à Paris et 22 la maximale pour Clermont-Ferrand.
Tenue printanière donc demain. Oui. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, il faut alléger le protocole sanitaire dans les EHPAD. C'est ce que demande mon invité, le président du groupe Philogéris. À tout de suite. 18h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et j'accueille ce soir le PDG de Philogéris qui gère 17 EHPAD en France, environ 1000 résidents. Bonsoir Yann Reboulot.
Bonsoir Isabelle Millet, merci de m'accueillir à votre micro.
Merci à vous d'être avec nous ce soir en direct. Alors la campagne de vaccination contre le Covid a débuté fin décembre dans les EHPAD le 27 décembre. Plus de 3 millions de doses ont déjà été administrées. Dans vos établissements, dites-nous, quel est le pourcentage de personnes âgées qui ont déjà reçu au moins la première dose ?
Dans nos établissements, le pourcentage de personnes âgées qui a reçu la première dose, il est à peu près équivalent à ce qu'on observe au niveau national, hein, c'est-à-dire qu'on se rapproche des 80% de résidents ayant reçu la première dose, et au-delà de la première dose, on est déjà presque à 50% de résidents qui ont reçu leur deuxième dose.
Et vous pensez que tous les pensionnaires candidats au vaccin auront reçu cette deuxième dose d'ici combien de temps ?
Bah écoutez, si on s'en tient entre guillemets au calendrier vaccinal, hein, qui prévoit que la deuxième dose est administrée à partir de 21 jours, hein, et il n'y a pas eu de changement pour ce qui concerne les EHPAD sur ce délai de la deuxième dose, à partir de la fin de la semaine prochaine, tout le monde aura reçu, la semaine prochaine, le début de la première semaine de mars, tout le monde aura reçu sa deuxième dose.
Et est-ce que c'est la même chose parmi votre personnel ?
Alors, le personnel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un premier temps, il n'a pas été prioritaire. C'est toute la particularité de notre stratégie vaccinale, c'est qu'on a ciblé en premier les personnes fragiles. Donc, les résidents des EHPAD, les personnes qui développaient des pathologies qui les rendaient fragiles face à ce virus. Donc, dans les établissements, dans un premier temps, on a vacciné les salariés qui eux-mêmes présentaient des fragilités, des comorbidités, comme on dit, et puis un certain nombre de salariés volontaires, puisque vous savez qu'on recevait ce vaccin par dose, par flacon de 5 doses. On n'avait pas forcément à chaque fois un contron qui permettait de faire une division par 5. Donc quand il restait des doses disponibles, on les a proposées aux salariés. On a aussi pu extraire dans certaines conditions cette fameuse 6e dose. Donc on a proposé ça aux salariés, on a proposé ça aux intervenants professionnels de santé qui viennent régulièrement s'occuper de nos résidents. Et c'est dans ces conditions qu'on a commencé la vaccination de nos salariés.
Bon, et alors est-ce que vous constatez déjà les premiers effets positifs de ces vaccinations ?
Alors, les premiers effets positifs, il n'y a pas que moi qui les constate, hein. C'est assez paradoxal. Vous évoquiez tout à l'heure les chiffres qui semblent marquer une petite reprise de l'épidémie à ce stade, hein. Je suis très prudent. En ce qui concerne les populations des EHPAD et les populations âgées, on se rend compte que à la fois les taux d'incidence, mais également les hospitalisations de ces personnes de plus de 80 ans et de ces personnes des EHPAD ont tendance, elles, à continuer à diminuer. Et je dirais même que la baisse qu'on a observée dans les jours qui ont précédé le redémarrage de l'épidémie, elle était essentiellement portée par les personnes de plus de 80 ans, alors que chez les moins de 80 ans, on observait un plus grand nombre de contaminations et puis on commence à observer un plus grand nombre d'hospitalisations également chez ces plus jeunes.
Ouais. Et ça veut dire que vous, dans vos établissements, vous n'avez plus de contamination depuis combien de temps ? Ou est-ce que vous en avez encore un peu ?
Écoutez, dans certains de nos établissements, on a eu des clusters qui sont apparus jusqu'à la fin de l'année 2020, au tout début de l'année 2021. Depuis la mi-janvier, à la fois par chance et puis progressivement par l'effet de la politique vaccinale, on ne constate plus de clusters. On constate aussi une diminution des contaminations de nos salariés, hein, parce que malheureusement, ces contaminations, elles accompagnaient les contaminations de nos résidents. Et depuis la semaine dernière, là, on constate non seulement une diminution des contaminations, mais également, plus généralement, une diminution des hospitalisations. Et les chiffres qui sont publiés, alors pas tous les jours, hein, pour ce qui concerne les EHPAD, ils sont publiés que 2 fois par semaine. On a un petit temps de recul qui est un peu plus long, mais on constate que même la mortalité dans nos établissements, qui a été très élevée à un moment donné, a tendance à décroître de manière maintenant significative.
Est-ce que vous avez beaucoup de résidents réfractaires qui n'ont pas souhaité se faire vacciner ?
Très peu. Il y en a eu, mais j'allais dire, un résident, c'est avant tout un être humain, un citoyen, et il exprime son identité, y compris parfois dans le refus de la vaccination, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Je dirais que dans le petit 20% de résidents qui ne seront pas vaccinés, on a trois catégories de résidents. On a les résidents qui refusent la vaccination. Alors quand je dis les résidents, ça peut aussi être les proches. Hein. Parfois, certains de nos résidents ne sont pas en capacité d'exprimer leur assentiment sur la vaccination. Donc ce sont les proches, les personnes de confiance qui décident à leur place. Donc ça représente un petit tiers. Le deuxième tiers, il est représenté par des résidents qui ont été malades récemment de la Covid-19 et la recommandation de la Haute Autorité de Santé nous invite à patienter 3 mois après la contamination pour faire la vaccination. Et puis la troisième catégorie, le troisième tiers de résidents non vaccinés, ce sont des résidents qui malheureusement ont un pronostic vital qui est engagé à court terme du fait d'autres pathologies et pour lesquelles on a considéré que la fameuse balance bénéfice-risque de la vaccination n'était pas en faveur de la vaccination.
Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer pour un résident vacciné? Est-ce qu'il a davantage de liberté, entre guillemets, de possibilité de voir ses proches, par exemple, qu'un résident non vacciné?
Alors, il devrait. La première chose, c'est que moi, je considère qu'on ne peut pas établir une discrimination en fonction du statut vaccinal du résident. Comme je vous l'ai expliqué, un résident qui n'est pas vacciné, c'est qu'il a une bonne raison de ne pas être vacciné. Et il n'y a pas de raison particulière de dire qu'on doit le punir, entre guillemets, parce qu'il n'a pas été, vacciné. Donc, les mesures qu'il faut envisager pour les résidents des EHPAD, il faut les envisager indifféremment.
Pour tout le monde, pareil.
Les envisager pour tout le monde.
Mais alors, aujourd'hui, est-ce que ça s'est un peu assoupli? Elle ressemble à quoi la vie d'un résident d'EHPAD actuellement ?
Alors, sur le papier, elle n'a pas été modifiée. Vous savez que l'activité de nos établissements, elle est encadrée par un certain nombre de recommandations qui sont émises par les autorités sanitaires nationales, qui sont ensuite répercutées au niveau local par les agences régionales de santé. Et pour l'instant, on n'a pas reçu de signaux particuliers de modification de ces recommandations, qui sont encore des recommandations très fermes.
Et ça, vous le regrettez, Yann Reboulot ? Vous plaidez, vous, pour un relâchement des contraintes ?
Ben, j'allais dire, c'est pas tant moi qui le regrette, ce sont nos résidents, parce qu'il faudrait commencer par leur donner la parole. Et effectivement, ces résidents, comme tout le monde au mois de décembre, au mois de novembre, ils étaient un peu réticents à cette idée de vaccination. C'était des nouveaux vaccins, une nouvelle technologie, l'ARN messager. On les a motivés, on leur a expliqué l'intérêt de cette vaccination. Ils ont été très volontaires, on en a la preuve aujourd'hui. Hein, pratiquement 80% déjà de résidents volontaires. Ils ont du mal à comprendre pourquoi finalement ce vaccin qui non seulement les protège, comme c'était annoncé, des formes graves de la maladie, mais va bien au-delà, puisque manifestement, il prévient aussi un certain nombre de contaminations, il réduit la circulation du virus. Donc nos résidents, ils ont un peu de mal à comprendre, ouais. Nos résidents, leurs proches, ils ont du mal à comprendre pourquoi, finalement, ils vivraient dans le même régime de restriction que celui qu'ils subissent depuis pratiquement un an maintenant.
Certains vous disent qu'ils se sentent en prison. J'imagine que c'est terrible à entendre pour vous, pour le personnel. On est arrivé à un point où il faut ouvrir absolument un peu les vannes.
Il faut effectivement, à partir du moment où plus rien ne justifie, je dirais pendant de nombreux mois, on cherchait la meilleure solution pour protéger nos résidents. Et vous savez, les ravages que l'épidémie a fait dans les EHPAD. Et donc on avait du mal à contenir ce virus. Aujourd'hui, on a ce vaccin qui manifestement produit ses effets. On a mis en œuvre une stratégie vaccinale qui, de mon point de vue, était la bonne. Il fallait commencer par les personnes fragiles. Ça peut paraître encore une fois paradoxal quand l'épidémie repart dans certaines régions. Vous avez les personnes dans les établissements, les personnes âgées, ils sont patients. Mais
jusqu'à un certain point.
Voilà, ouais. Ils sont patients, mais ils n'ont plus beaucoup de temps. Alors, ils nous disent, les jeunes sont impatients alors qu'ils ont la vie devant eux. Nous, on est patients, mais on n'a plus la vie devant nous.
Donc, si je comprends bien, l'appel que vous lancez aujourd'hui au gouvernement, c'est desserrer les taux dans les EHPAD. C'est une urgence. Merci beaucoup, Yann Reboulot, PDG de Philogéris. On a tous une pensée ce soir pour un proche qui se trouve en EHPAD. On leur souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage. On va y arriver. On va bientôt tous se retrouver. C'est promis.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et vos grandes voix du mardi. À tout de suite. 18h30, l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
6 jeunes dont l'auteur du coup de couteau mortel en garde à vue après le décès d'une adolescente de 14 ans dans l'Essonne. D'après les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille aurait tenté de mettre fin à une bagarre entre deux bandes rivales. À Dunkerque et dans sa métropole, on tente de se laisser une dernière chance afin d'éviter le confinement. Le maire de la ville recommande le port du masque partout et une limitation stricte des regroupements. Les protections périodiques gratuites dès la prochaine rentrée pour les étudiantes, annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur. 1500 distributeurs distributeurs vont être installés dans les résidences et les services de santé universitaires, précise Frédéric Vidal. Vers la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans à Strasbourg. Si elle est adoptée, la mesure entrera en vigueur dès la rentrée de septembre. Coût pour les finances de la métropole entre 6 et 8 millions d'euros par an. Et puis la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Atlético Madrid-Chelsea et Lazio Rome-Bayern Munich. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 21h.
Merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h, bien sûr, avec un nouveau journal complet. Anissa Haddadi, soleil et douceur pour demain, quel beau programme.
Oui, je vous avais dit qu'à partir d'aujourd'hui, on était vraiment parti sur une autoroute printanière.
C'est vrai, on a bien reçu l'autoroute printanière.
Et ben, vous allez voir que demain, c'est encore mieux qu'aujourd'hui, puisque la journée va débuter avec quelques nappes de brouillard matinaux sur la Corse, la Côte d'Azur, l'Occitanie, les Pays de la Loire et le Grand Est. Mais dans toutes ces régions, rassurez-vous, les brouillards ne sont pas très épais et puis surtout, ils vont très vite se dissiper. Sur la pointe bretonne, le vent va souffler fort. Demain, c'est le vent du sud jusqu'à 70 km/h. Les nuages restent présents vraiment sur le Finistère. Et puis sur le Languedoc-Roussillon, encore quelques petits nuages gris, mais on en a fini avec la pluie. Partout ailleurs, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Il fait beau, il va faire beau sur vraiment les trois quarts de la France demain, dans un ciel bien plus dégagé qu'aujourd'hui, avec des températures douces, 2 à 12 degrés demain matin et 13 à 22 degrés demain après-midi. Nous aurons 13 degrés à Lorient, 15 à Brest et Montpellier, 17 degrés à Nîmes et à Lille, 19 à Besançon et Paris, 20 degrés pour Bordeaux et Auxerre, 21 degrés à Brive-la-Gaillarde et Biarritz et 22 la maximale pour la capitale auvergnate, Clermont-Ferrand.
Et cette autoroute, elle va nous mener jusqu'au week-end au moins, Anissa. Hein,
et même après.
Il y a intérêt. Merci, à tout à l'heure pour un nouveau point météo complet.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h31, on ouvre le débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge, et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonsoir et merci.
Bonsoir Isabelle,
à tous
bonsoir
les trois de bonsoir m'accompagner ce soir. Alors que le salon de l'agriculture aurait dû ouvrir théoriquement ses portes samedi, Emmanuel Macron était en Bourgogne aujourd'hui à la rencontre des agriculteurs. Alors on est à moins d'une semaine de la fin des négociations commerciales annuelles entre la grande distribution, les industriels et les producteurs, et forcément le contexte est encore plus tendu cette année que les années précédentes. On rappelle que ces négociations, elles sont capitales parce que ce qui est en jeu, eh bien, ce sont les revenus des agriculteurs. Écoutez ce que disait Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. C'était la semaine dernière sur notre antenne.
Proposer du rôti de porc à 3,28 € le kilo, quand il n'est pas en promotion, il est aux alentours de 6 euros, 6,50 euros, voire 7 euros. Et vraiment, il faut que les Français comprennent qu'en tirant les prix toujours vers le bas, ils tuent les agriculteurs.
Les grandes voix, c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Guylaine Ottenheimer, on tue en ce moment les agriculteurs ?
Mais ça fait des années que les négociations entre les représentants des grandes surfaces et les agriculteurs, mais c'est la même chose aussi avec certaines industries, tirent les prix vers le bas. Et ça fait des années, c'est très longtemps déjà dans les 30 glorieuses, on a considéré que avoir des prix bas à la consommation dans tout ce qui est l'agroalimentaire, ça faisait baisser l'INSEE, c'était donc bon pour à la fois l'économie, le moral des Français, etc. On n'a jamais fait le choix de la qualité. Moi, j'avais juste un point commun, quelques points communs, mais j'avais un point commun très fort avec Jacques Chirac, c'est qu'il détestait les grandes surfaces. Et il n'y a jamais eu de grandes surfaces à Paris. Bon, il a toujours considéré que ça tuait la ville, ça tuait le commerce, ça tuait l'agriculture. Et c'est vrai que c'est un choix qui, à mon avis, n'était pas bon, ni pour l'environnement, ni pour l'esthétique, ni pour les centres-villes, ni pour les modes de consommation. Je pense qu'il vaut mieux manger un bon poulet fermier une fois par semaine, et c'est tout, mais pas manger du jambon sous plastique, du porc sous plastique. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de tirer la consommation vers le bas. Mais c'est vrai que quand vous regardez les caddies des Français, ils préfèrent acheter la dernière petite voiture électrique au gamin, parce que l'autre copain là aussi, ou la console, l'autre gamin là à l'école, plutôt que d'acheter du vrai jambon ou du vrai poulet. Voilà. Mais il y a certaines surfaces, grandes surfaces, qui dans certaines zones... font de la qualité, parce qu'ils ont compris que dans certaines qualités, ils ne pouvaient plus vendre le jambon transparent. Là. Vous savez, Jean-Pierre Coff le montrait toujours en rigolant à la télé. Une espèce de truc transparent qui était que de la flotte. Et je pense qu'il y a des évolutions énormes à faire, mais simplement, on va pas rentrer dans le détail des négociations, mais c'est quand même un jeu à triple menteur.
Oui, et ce que vous disiez, c'est vrai, ça fait des années que ça dure, et pourtant, il y a une loi, Emmanuel Duteil, la fameuse loi Egalim, qui remonte à 2018 et qui devait s'attaquer justement à la guerre des prix, puisque c'est ça notre sujet ce soir, cette guerre des prix. Elle dit quoi, cette loi exactement, Emmanuel ?
La loi, elle était très simple, c'est-à-dire qu'elle voulait que l'on se base sur le prix de production. Donc c'était vraiment une loi qui devait permettre que l'on achète au vrai prix, ce que produisent notamment les agriculteurs, mais également, par exemple, certains fournisseurs. Elle a fonctionné dans certains secteurs, dans un secteur principalement, c'est le secteur du lait, parce que c'est mieux organisé, avec des grandes coopératives. Ça a fonctionné. Le problème, c'est que le Covid est arrivé par là. Et ça a tout cassé. Pourquoi ça a tout cassé? Parce qu'aujourd'hui, les grandes surfaces sont reparties complètement dans la guerre des prix, puisque qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient que le chômage va augmenter dans les mois à venir, que les faillites vont sûrement se multiplier dans les mois à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français vont avoir moins de pouvoir d'achat. Moins de pouvoir d'achat, ça veut dire qu'elles veulent faire baisser les prix pour réussir à garder leurs clients. Et chacune veut baisser les prix plus que celle d'à côté pour avoir le plus de clients. Je peux vous révéler des chiffres qui n'ont pas été donnés au grand public.
Allez-y.
Au début des négociations commerciales, les grandes surfaces, Auchan, Leclerc, Carrefour, Casino et autres, ont demandé aux grands groupes une baisse de prix, hein, une déflation, alors qu'on n'est pas du tout en déflation en France, de 1,33% et aux PME de 0,73%. Pour le moment, celles qui ont réussi à signer leur toute première négociation commerciale du côté des PME, ont une hausse de prix de 0,2-0,3%. C'est-à-dire que ça ne permet même pas de compenser l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce que nous, consommateurs, ça c'est une bonne nouvelle, nous payons moins cher. Mais à quel prix? Au prix de payer moins cher au bout du bout du bout de la chaîne. Et comme le disait très bien Guylaine Ottenheimer, la question qu'il faudrait poser, c'est qui ment le plus? Parce que tout le monde ment quand même un petit peu dans cette histoire. Les producteurs, les agriculteurs, parce qu'ils ne se sont pas suffisamment réformés ces dernières années pour faire des
fermes qui soient plus compétitifs. Oui, même les producteurs. Ouais.
Bah, un petit peu aussi, puisque eux aussi auraient eu une partie du travail à faire. Les industriels qui nous disent « Oh là là, mon Dieu, ça va couper ma marge, je ne vais jamais y arriver », alors que vous en avez quand même certains qui ont de gros résultats. Et puis la distribution, c'est vrai que cette année, c'est particulièrement pas entendable, puisqu'ils ont fait une bonne année 2020. Pour la plupart.
Alors qu'il y a certaines matières premières qui ont bien énormément sûr. Augmenté bien pour sûr. Les agriculteurs.
Bien sûr.
Ouais. Charles Villeneuve, il peut faire quelque chose, Emmanuel Macron, ça, il a vraiment de l'influence sur l'issue de ces négociations qui, on le rappelle, doivent se terminer bientôt, hein, le 1er mars.
Je ne sais pas, Guylaine Ottenheimer parlait de Jacques Chirac, qui lui a évidemment évité à Paris des grandes surfaces, des hypermarchés.
Alors, il y en a quand même. Hein. Vous avez un Carrefour en plein Paris, Porte de Saint-Cloud.
Exactement.
Oui, mais il est arrivé tard. Hein.
Non, Porte d'Auteuil.
Ou Porte d'Auteuil, oui, pardon.
Il est arrivé tard. Il est arrivé tard. C'est le seul.
Entre les deux, on va dire.
Oui, je le connais. C'est pour ça que j'apporte cette précision. Non, mais ce n'est pas ça. Mais je trouve que les agriculteurs, enfin les producteurs, ont fait quand même des efforts. Tu as fait d'ailleurs allusion, notamment avec des coopératives, notamment sur le lait et tous les produits fermiers, ont créé des labels. Et s'en sont relativement sortis, sauf que, évidemment, les distributeurs, les grands distributeurs, écrasent les prix en jouant sur la masse des consommateurs. Et même si beaucoup d'agriculteurs ont travaillé la qualité, s'en sont sortis avec des labels bio. Et c'est vrai que Dutheil disait à l'instant qu'ils ne sont pas allés assez loin, ils n'ont pas continué leur effort. Mais il n'empêche qu'ils ont fait cet effort et que peut-être... Aujourd'hui aussi, les consommateurs veulent une grande épicerie fine, finalement, à proximité du lieu
de chez eux. Oui, oui.
C'est bon. Vrai, de plus en plus, il y a quand même cette tendance aussi.
Je propose qu'on poursuive ce débat.
Là où il y a du pouvoir d'achat.
Je vous interromps, on va poursuivre ce débat, c'est promis dans un tout petit instant. À tout de suite, les Grandes Voix. 18h39, c'est la suite de notre débat du Grande Voix du mardi, avec toujours à mes côtés Guylaine Ottenheimer, Charles Villeneuve et Emmanuel Dutheil. Et on continue de parler de ces négociations commerciales annuelles entre la grande distribution, les industriels et les producteurs. C'est effectivement une discussion qu'on a tous les ans, hein, à la même période. Ces négociations, elles vont déterminer les prix des produits vendus en supermarché et la rémunération de tous les maillons de la chaîne alimentaire. Et en fait... On a l'impression qu'à chaque fois, on a des acteurs qui ont des objectifs opposés, hein, Emmanuel Dutheil. Hein.
Ah oui, mais alors, non, ils ont tous un même. Ah non, ils n'ont pas tous un même objectif.
Ils veulent tous gagner de l'argent.
La grande distribution veut payer le moins cher, le fournisseur veut essayer de lui refourguer au plus cher ses produits, et puis derrière, le producteur essaye de survivre. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas très bien, finalement, ces négociations. Ce matin, on racontait, par exemple, sur l'antenne, une personne qui le faisait pour Le Sieur et Fleury Michon, qui sont quand même pourtant des grosses marques. Ils nous racontaient les mesures d'intimidation. On monte le chauffage à fond pour un moment, grosso modo, on perd la tête, on se met un peu
vous
dans...
voulez dire pendant les négociations,
pendant
ça
les négociations,
se passe comme ça
c'est quelque... Alors, cette année, ça se passe en virtuel, mais les autres années, je peux vous dire que c'est viril. Hein. C'est des choses qui sont assez compliquées. C'est une vraie guerre de pression des deux côtés, hein, ce que ne croyez pas que les L'Oréal et autres soient très sympas dans leurs négociations commerciales. Et ça se passe jusqu'à la dernière seconde. Quand est-ce que ça se termine là? Ce
premier
dimanche,
mars,
23h59, puisque les prix doivent entrer en vigueur à compter du 1er mars. Et c'est capital, parce que de ces négociations dépendent tous les prix, quasiment tous les prix, de ce que l'on va acheter dans l'année à venir dans la grande distribution. C'est quasiment l'un des seuls secteurs hein, où ça se passe comme ça. Et chaque groupe s'est plus ou moins réuni. Carrefour et autres se sont parfois réunis de façon à avoir une masse extrêmement importante face...
D'être plus puissant face aux autres acteurs.
C'est quand même pas un petit groupe, Cristaline. Hein. C'est l'eau la plus bue de France. Une eau sur deux vendue en France, c'est de la Cristaline. Il disait à ce même micro, il y a quelques jours, dans l'émission de la France Bouche que j'ai la chance de co-animer avec Elisabeth Assayang, il nous disait, cette année, il y a certaines enseignes où on n'est pas loin du racket. Vous imaginez le mot quand vous parlez à vos clients, à vos fournisseurs de racket.
C'est oui, quand même on parle de guerre des prix, on est vraiment dans la guerre. Là, ouais.
On est revenu là à cause du Covid, et vraiment à cause du Covid. Hein, parce que la guerre des prix, c'était un poil calmé, comme le disait très bien Guylaine Ottenheimer. Beaucoup de groupes, Intermarché, Super U, étaient allés sur les petits producteurs. Lidl aussi, on les critique beaucoup, mais ils ont signé pas mal de contrats sur les petits producteurs. Mais voilà, le Covid a
ouais,
tout explosé.
C'est ça, parce qu'il y a ce contexte qui est complètement inédit, après une année compliquée liée à ce fichu Covid. Toujours sur Europe 1, jeudi dernier, la présidente de la FNSEAL nous disait que les distributeurs qui ont bénéficié de la fermeture des restaurants, qui s'étaient engagés à jouer le jeu, ben en réalité, ils ne sont pas du tout solidaires. C'est à eux qu'Emmanuel Macron s'est adressé aujourd'hui, Guylaine Ottenheimer ?
Bah, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ils ont plutôt bien gagné leur vie et eu des excellents résultats. Maintenant, tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut être le plus profitable, je veux dire, les industriels. Alors, le problème, c'est, comme le disait Emmanuel Lutin, il faut que l'agriculture s'organise mieux. C'est vrai, c'est bien, c'est gentil, le circuit court, les marques bio, etc. Mais par rapport à la masse des négociations, il faut qu'il y ait des centrales d'achat, il faut qu'ils se regroupent. Bon, mais je ne sais pas, ce n'est pas leur mentalité. Ils font des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, face à ces hypermarchés, peser. Et puis je pense que ça a été une très bonne décision du gouvernement de la majorité de Macron de stopper les attributions de permis pour les nouvelles grandes surfaces. Il faut arrêter, il faut que le pourcentage d'hyper baisse pour un peu mieux, ce sera plus facile de réguler quand il y aura plus de concurrence. Parce que là, il y a certaines PME qui sont totalement étranglées et qui sont obligées de signer parce qu'elles n'ont pas le choix. Il faut être dans les rayons. Si vous n'êtes pas dans les rayons de tous les hyper, après les gens se déshabituent de votre marque et ils ne l'achèteront plus. C'est très important, c'est aussi une question de visibilité pour eux.
Emmanuel Macron veut la souveraineté alimentaire. On en est très loin, hein, Emmanuel Dutheil. Un poulet sur deux, je crois, consommé en France aujourd'hui est importé.
Oui, et puis on n'est pas bon sur ce que les gens consomment de plus en plus aujourd'hui, par exemple sur le bio. Si on prend cet exemple-là, on n'arrive même pas à produire la moitié du bio qui est consommé en France. Par exemple, les haricots verts, qui sont les produits bio les plus consommés en France, on n'arrive pas à les produire en France. Tout ce qui peut être lait végétal, on n'arrive pas à les produire en France. Donc oui, bien sûr qu'on est très loin, mais alors attention, si on regarde le verre à moitié plein, on a quand même sûrement encore aujourd'hui l'une des agricultures les plus performantes de France, les plus sûres aussi. Vous savez, il y a quand même très peu au final de risques sanitaires. Vous entendez très rarement un problème sanitaire dans notre agriculture. On a des agriculteurs très compétents. Le problème, c'est ce que disait à l'instant Guylaine et que je me permettais tout à l'heure d'émettre, c'est qu'on n'a pas eu sûrement un courage politique pour aider les agriculteurs à abandonner certains marchés. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se battre sur le marché du porc à profusion, puisque les Espagnols ou les Allemands sont mille fois meilleurs que nous. Et comme sur n'importe quel marché, il faut réussir à aller sur un marché de la valeur, donc sur un marché où on produit des choses très spécifiques. Je prends un exemple qui est très compliqué à dupliquer, c'est le bœuf de Kobe au Japon, où tout le monde se bat pour pouvoir en acheter. Il n'y a pas de raison que nous, et on a des bœufs qui sont également exceptionnels chez nous, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver, vous voyez, des marchés comme ça. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement, rien que sur le bio, il faut 3 ans. Pour transformer une terre bio, il faut faire attention à ce que les voisins bougent aussi en bio ou en tout cas mettent en jachère leur terrain, sinon vous ne pouvez pas basculer en bio. Donc voilà, tout ça demande beaucoup, beaucoup de travail. On a une bonne agriculture qui demande d'être bien encadrée, ça demande des sous, et ça demande un peu de courage politique.
Et puis peut-être que quelquefois l'administration doit être un petit peu plus à l'écoute aussi des producteurs. Là, on raconte l'histoire dans notre cover sur la bureaucratie d'un agriculteur qui veut ressusciter une espèce de poule qui fait peut-être un peu moins d'œufs, mais de très bonne qualité. Et puis bon, c'est amusant de ressusciter une variété. Il n'arrive pas à avoir l'agrément parce qu'elle n'est pas répertoriée dans le document XY22. Mmh. Et tout est comme ça. Je veux dire, il faut aussi que les administrations soient plus à l'écoute des évolutions des agriculteurs vers une autre agriculture.
On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, vous reviendrez, Emmanuel Dutheil, sur Europe 1, nous raconter comment se sont terminées ces négociations, cette guerre des prix. On se retrouve dans un instant, les grandes voix. On va parler de Marine Le Pen, qui entame, paraît-il, un virage stratégique. À tout de suite. 18h49, suite de notre débat des grandes voix du mardi sur Europe 1, toujours avec Charles Villeneuve, Guylaine Ottenheimer, Emmanuel Dutheil. Et je voudrais qu'on revienne maintenant sur cette tribune publiée par Marine Le Pen hier dans le journal L'Opinion, dans laquelle elle se prononce contre l'annulation de la dette publique. Et ça, on ne l'avait pas forcément vu venir, hein, Charles Villeneuve.
Elle va même plus loin.
Oui.
Finalement, tous ces tendons d'Achille de l'élection ratée en 2017, elle y renonce. La fin de l'euro, la sortie de l'euro, l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice. Non, non, elle est... Si vous voulez, elle passe, elle fait un toilettage assez extraordinaire de tout cet totem qu'elle passe par-dessus bord. Et moi, je me pose la question, si vous voulez, c'est que, est-ce qu'elle va garder son électorat du premier tour? Parce qu'une partie de son électorat, c'est un électorat anti-système. Il ne faut pas l'oublier. Elle a un fond de caisse là-dessus, indéniable. Elle est en train de même renoncer avec le débat avec Darmanin, elle renonçait quasiment à l'immigration, qui est l'un de ses totems. Et partant de là, il faut pas oublier ce qui s'était passé avec Jospin en 2002, qui, lui, n'avait pas vu, de toute façon, arriver. Il s'était placé directement dans le cadre du second tour, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle pense qu'en atténuant un certain nombre de ses totems, de ce que j'appelle ses totems, c'est-à-dire de ses principes, qui elle-même est endettée, il ne faut pas l'oublier, elle va d'ailleurs s'endetter encore plus pour les régionales, les présidentielles, les législatives de 25 à 30 millions. Bon, cela étant, elle vise un électorat qui ne vote pas pour elle ou qui vote à 18% pour elle, c'est-à-dire les seniors.
Les seniors, oui.
Dont une partie, une grande partie, vote pour les Républicains et une autre partie pour Emmanuel Macron. Et est-ce qu'elle va récupérer cet électorat-là? C'est ce qu'elle vise, d'ailleurs, parce que cet électorat-là ne vote pas pour le Rassemblement national et elle peut renoncer. Non seulement, si vous voulez, elle peut perdre, en tout cas, ce qu'on appelle les hors-murs, les hors-les-murs, les anti-systèmes. Et au profit de quoi? Au profit de qui? Parce qu'elle aura aussi la droite.
Ouais. Vous dites que c'est un choix délibéré, mais c'est un choix qui peut lui coûter cher. Alors, elle cherche quoi en disant ça, quand même, à gagner en crédibilité sur le plan économique, Guylaine Ottenheimer?
Ben, je me demande si c'est pas exactement ça qu'elle veut qu'on dise, mais que la réalité serait très différente. D'abord, il y a deux choses. Pendant tout le grand débat, quand on a commencé à discuter de ces histoires de comment on rembourse ou pas la dette, pas un mot de Marine Le Pen. Et Jordan Bardella, lui, disait ben, il faut rembourser, mais à des millions d'années, donc c'est comme si on l'enterrait, quoi, d'une certaine manière. En fait, pendant le même moment, il faut savoir que le Rassemblement national est obligé d'emprunter beaucoup. Et elle a promis un taux de 5% aux souscripteurs. Et en disant ça, on l'entend aussi dire aux gens qui vont prêter de l'argent au Rassemblement national, on vous remboursera, c'est une question absolument de
réalité. Elle cite même ce dicton populaire qui paye ses dettes s'enrichit.
Voilà. Oui. Et deuxièmement, moi, je trouve qu'il y a un côté sabordage. Je ne suis pas sûre que cette femme ait vraiment envie de prendre le pouvoir. Ce qui va se passer en 2022, mais c'est prendre le pouvoir, mais ça va être un moment absolument terrible, très difficile. Elle n'a pas les recettes. Elle n'a pas les recettes. Et petit à petit, elle abandonne tous ses marqueurs. Et on se dit, non, mais c'est simple. Elle a, même dans le débat face à Darmanin, on se dit, mais si cette femme voulait vraiment prendre le pouvoir, elle aurait travaillé. C'était pas de la qualité d'un candidat à la présidentielle. Donc moi, je me pose des questions. Je me demande si vraiment cette femme a envie de prendre le pouvoir, si elle n'est pas lucide, parce qu'elle est intelligente, si elle n'est pas lucide sur la possibilité pour le Rassemblement national de diriger le pays à un moment qui sera extrêmement difficile. Et donc, petit à petit, elle coupe un peu tous ses marqueurs. C'est fini le Frexit, c'est fini les frontières, c'est fini mais tout là, ce qui faisait l'identité du Rassemblement national.
Mais là,
et c'est un discours à double tranchant, à la fois... Bon, on va dire que je me suis rangée, que je suis maintenant plus fréquentable, mais ça va lui faire perdre des voix. Et en même temps, ça veut dire, vous voyez, vous pouvez prêter de l'argent au Rassemblement national, oui. On est des gens sérieux.
Emmanuel Dutheil, oui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est du sabordage volontaire?
Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve qu'on oublie un point principal, c'est l'endroit qu'elle a choisi pour publier sa tribune.
Le journal L'Opinion.
L'Opinion, c'est le journal de qui? C'est le journal des libéraux et le journal des décideurs, un des journaux du monde économique. Son message, il n'est pas du tout envoyé à son électorat.
il est envoyé aux milieux économiques pour dire « Regardez, je suis en train de travailler. Vous, journaliste qui se moquez de moi à longueur de temps en disant que j'y connais rien, lisez ma tribune. » Elle n'a sûrement pas écrit le moindre mot. Hein,
mais c'est ça, il paraît qu'elle a été très aidée par des économistes.
Bah, c'est évident, ouais. Mais elle est plutôt pas mal foutue, la tribune. Vous enlevez Marine Le Pen de la signature, vous vous dites que c'est Éric Woerth qui l'a écrit. Hein. Il y a ou un autre républicain ou même un macroniste. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est l'endroit qu'elle a choisi. Et moi, je trouve qu'au contraire, elle est en train de semer. Personne de son électorat va lire sa tribune. Personne ne va jamais en entendre parler. Elle envoie un message.
Si, tous ceux qui écoutent Europe 1 en ce moment.
Bien évidemment.
Oui, mais non, mais pas seulement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Oui, mais ça
avec
ne touche pas, ça ne va pas toucher le grand public.
Elle vise pas seulement le monde économique, elle vise les épargnants.
Bien sûr.
Et justement, l'électorat dont je parlais.
Les retraités.
Et moi, je ne crois pas qu'elle soit dans la
mais
position de la championne
pas que les
qui refuse de finir
Charles.
Le match.
Mais
parce qu'elle ne se sent pas capable d'être une championne. Oui, c'est ce que disait Guylaine.
Je pose la question. Oui, je pose la question. Ça fait longtemps que je la suis, que je la connais, que c'est une femme vraiment intelligente, qui est capable d'avoir des discours absolument très construits. Elle est vraiment très maligne. Et là, franchement, sa façon de slalomer là, depuis son
duo. Ce que vous dites, c'est que c'est du sabordage. Et
au sein du Rassemblement national, certains disent vraiment, mais secrètement, qu'ils ne sont pas capables de diriger ce pays au moment d'une crise. Oui.
Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise à partir du moment où elle a annulé la sortie de l'euro ? Qu'est-ce qu'elle peut dire sur le paiement de la dette ?
Elle est obligée de se banaliser.
Et par ailleurs, il y a un autre point stratégique. C'est-à-dire qu'elle veut renvoyer Jean-Luc Mélenchon dans ses corps parce que lui dit à qui veut l'entendre, on n'aura jamais à payer. Elle acte un point quand même fort, de dire on est bien contraint.
On rembourse toujours ses dettes.
Oui.
Elle prend cette position-là qui est très sensible.
Mais il y a ça aussi comme message
à l'électorat des seniors.
Bien sûr. Bon, bien sûr.
Non, mais surtout, si tu veux, et c'est vrai que durant le débat, moi, j'aurais pas dit qu'elle était trop molle, j'aurais dit qu'elle était inconsistante, évanescente.
Oui, c'est ça.
Bon, plus
je
que
l'ai pas senti dans le match.
Mais elle n'était pas dans le match de toute façon parce que indéniablement, elle ne connaissait aucun des articles de la loi dite séparatisme.
C'est pas normal.
Ça, c'est évident, mais c'était un débat à un moment donné parlementaire de l'Assemblée nationale et pas un débat national. Mais je crois que Darmanin l'a amené sur ce terrain aussi. De toute façon, elle a été prise à contre-pied. Je ne suis pas sûr qu'elle soit dans la position, tu sais, du tennisman qui ne sait pas finir son set.
Non, enfin, on va pas faire le débat du débat, mais sur cet épisode-là, vous êtes sceptique sur son intérêt.
Je trouve sa stratégie très bizarre. Et je pense effectivement que la France va être dans une situation très compliquée au moment de la présidentielle. Très compliquée. L'Europe, le monde d'ailleurs, sera dans une situation avec beaucoup de fermetures d'entreprises, avec beaucoup de chômage. Et voilà, je ne vois pas émerger au Rassemblement national la plus petite idée qui pourrait nous sortir de la difficulté.
On va s'arrêter là, malheureusement.
Juste un mot. Charles. Partage. La sortie de la crise sanitaire sera difficile aussi pour le chef de l'État. Parce que le chef de l'État lui-même doit surveiller attentivement son premier tour.
Merci beaucoup les grandes voix. Merci de m'avoir accompagné dans un instant. Toute l'info avec le journal de 19h. À tout de suite.